Un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Washington, la Voix de l'Amérique, un micro dédié avec vous pour cette édition de Carrefour Sciences et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord, les vaccins sauvent des vies. Mais voilà, nombre de personnes les rejettent, s'inquiète l'Organisation mondiale de la santé.
Ce phénomène d'hésitation est un phénomène qui est lié à un certain nombre de facteurs et qui peuvent être assez complexes et qui vont varier suivant le complexe, qui peuvent varier suivant le lieu, suivant le moment et aussi suivant les vaccins.
On entendra le docteur Philippe Duclos, expert en vaccination à l'OMS. Des progrès dans les recherches sur les réactions nucléaires à basse énergie.
Et ça avance sur plusieurs côtés. D'une part, il y a la théorie. Donc c'est intéressant parce qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Et là, franchement, ça avance, mais il y a tellement de voies disponibles que je ne sais pas de quel côté il faut regarder parce que chacun arrive avec sa théorie qui semble être la meilleure.
Tous les détails avec le physicien Jean-Paul Biberian et le Malawi veut assouplir l'accès à l'IVG. Les pays qui tentent de combler les lacunes en matière de vaccination sont de plus en plus souvent confrontés à des personnes qui retardent ou même refusent des vaccinations pour elles-mêmes ou encore pour leurs enfants, signale l'Organisation mondiale de la santé. Un enfant sur cinq dans le monde ne reçoit toujours pas systématiquement les vaccins vitaux et chaque année, 1,5 million d'enfants meurent encore de maladies que les vaccins existants permettraient d'éviter. Pour plus de précisions, on écoute le docteur Philippe Duclos, expert en vaccination à l'OMS.
Les hésitations, donc la définition, c'est vraiment le fait de retarder ou de refuser une vaccination malgré la disponibilité et l'offre de la vaccination à la population. Et donc, ce phénomène d'hésitation est un phénomène qui est lié à un certain nombre de facteurs qui amènent à cette hésitation et qui peuvent être assez complexes et qui vont varier suivant le complexe, qui peuvent varier suivant le lieu, suivant le moment et aussi suivant les vaccins. Donc, quelqu'un peut accepter un vaccin et s'opposer à un autre vaccin suivant un certain nombre de considérations.
Parmi ces facteurs, il y a la désinformation. On avait vu ça notamment au Nigeria où les communautés s'étaient inquiétées de rumeurs disant que le vaccin anti-polio en fait pouvait provoquer certaines séquelles. C'était entièrement faux.
Bien sûr, il y a un certain nombre, malheureusement, de désinformations qui circulent et qui peuvent créer des problèmes en ce fait qu'elles apportent une fausse communication qui va biaiser en fait l'interprétation et la communication sur l'utilité et les risques liés au vaccin. Et ça, effectivement, c'est extrêmement dommageable.
Nombre de personnes pourtant éduquées néglige certains vaccins au motif que les enfants peuvent être allergiques, peuvent subir des séquelles. Est-ce que ce sont des craintes parfois justifiées ou non?
Il est important à chaque fois de rationaliser l'usage des vaccins. Donc, bien sûr, le but n'est pas de pousser la vaccination à tout prix, mais dans les programmes de vaccination, de rationaliser la vaccination, l'utilité, de considérer toujours la balance des bénéfices et des risques des vaccins. C'est des produits biologiques, donc effectivement, et en particulier pour certains, il peut y avoir des risques d'effets secondaires. La plupart des vaccins sont extrêmement sécuritaires, mais effectivement, pour certains vaccins, il peut y avoir quelques réactions allergiques. Donc des fois, effectivement, c'est important toujours d'évaluer le terrain, de bien voir les recommandations, les contre-indications qui peuvent exister, mais ne pas aller au-delà et ne pas s'inquiéter de façon indue et toujours de bien garder à l'esprit le risque de la maladie dans l'équation donc du bénéfice et du risque du vaccin. Et des fois, malheureusement, ce qui se passe, en particulier dans les pays industrialisés, ou je dirais même en Afrique, dans les pays où la polio sévissait largement, mais maintenant où on ne la voit plus compte tenu du programme d'éradication, puisque donc on n'a pas eu de cas de polio sauvage rapporté en Afrique maintenant depuis plus d'un an, les gens ont tendance à penser que la vaccination est inutile. Malheureusement, tant que les maladies ne sont pas éradiquées, ce qui est extrêmement difficile, si on baisse la garde, si on arrête la vaccination, ben on fait courir un risque à l'individu et à la communauté de façon plus large. Et vous soulignez tout à l'heure dans notre discussion la situation aux États-Unis par rapport à certaines maladies. On l'a vu avec la vaccination contre la rougeole où il y a eu quelques épidémies qui ont circulé suite à l'absence de vaccination d'une portion de la population.
Il y a une tendance parmi la population à dire « Oh, la rougeole, c'est pas grave », mais non, en fait, il s'agit de maladies qui peuvent vraiment aller jusqu'à tuer un enfant.
Absolument, et bien sûr dans les pays industrialisés où il y a une prise en charge médicale extrêmement importante, où il n'y a pas de problème de malnutrition, l'impact de la maladie va être moindre que ce qu'il ne peut être dans certains pays. La rougeole par exemple est une maladie qui tue énormément et qui a un taux de létalité assez élevé donc dans des pays en développement. Mais même dans un pays comme les États-Unis, on va avoir aussi une mortalité qui est liée à la maladie. Quand il y a suffisamment de cas, on va éventuellement avoir des décès ou des séquelles liées à la maladie. Alors les gens ne voient pas ça justement, et on est passé d'une situation où il y a quelques décennies, auparavant, on n'avait pas de vaccin, donc la rougeole était un état de fait avec lequel il fallait vivre, à une situation après où la maladie a été bien contrôlée, et en moyenne dans la population, on a tendance à oublier les effets qui peuvent être assez dévastateurs de ce genre de maladie. Et encore une fois, pour chaque maladie, on doit effectivement rationaliser l'usage du vaccin par rapport au fardeau de la maladie, par rapport au risque de complications, par rapport aux autres possibilités donc d'éviter la maladie ou de prise en charge médicale. Il faut se rappeler que pour la rougeole, par exemple, il n'y a pas de traitement spécifique. Et aussi donc par rapport à l'efficacité du vaccin, par rapport à toute cette problématique. Donc les prises de décision qui amènent à recommander l'utilisation d'un vaccin sont basées sur des évidences, sont des décisions complexes qui font appel à des comités d'experts et qui en général ne sont pas prises à la légère. Et effectivement, on voit des situations où les facteurs qui conduisent à la réticence en matière de vaccination, ce qui est intéressant, c'est qu'un facteur peut aller dans un sens ou dans l'autre suivant les contextes. Donc vous parliez des personnes qui ont un niveau d'éducation très élevé. Dans un certain nombre de pays, ça va être un facteur qui conduit à l'acceptation de la vaccination. Et dans certains pays, comme peut-être aux États-Unis, un niveau très élevé d'éducation va en fait amener à des réticences, peut-être parce que les gens vont se tourner plus vers des médecines douces ou s'opposer au système, je ne sais pas. Mais effectivement, on observe cette situation.
Le docteur Philippe Duclos, expert en vaccination à l'OMS, il était joint à Genève.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Amigro Didier avec vous pour Carrefour Science et Santé. En mars 1989, une nouvelle source d'énergie était annoncée au grand public. Elle serait rapidement surnommée la fusion froide. Une expérience menée à l'époque par les scientifiques Martin Fleischmann et Stanley Ponce démontrait qu'à température ambiante, il était possible d'enregistrer un dégagement de chaleur en plongeant une électrode de palladium dans de l'eau lourde sans radioactivité induite. Cette expérience de 1989 ouvrait la voie vers une énergie propre, peu coûteuse et abondante. Mais voilà, rapidement, la communauté scientifique dénoncerait une fraude, des scientifiques ayant eu du mal à répéter l'expérience. Pourtant, depuis plus de 25 ans, des physiciens du monde entier s'acharnent. Depuis la Chine jusqu'à la Russie, en passant par l'Italie, la France ou les États-Unis, car l'agence spatiale américaine, la NASA, travaille sur la fusion froide, rebaptisée réaction nucléaire à basse énergie. Et en octobre, Airbus prévoit un séminaire sur la question. Le géant aéronautique européen a même déposé un brevet. Pour faire le point de la situation, nous avons joint le physicien français Jean-Paul Biberian qui suit l'évolution des recherches sur la fusion froide depuis les expériences de Martin Fleischmann et Stanley Ponce. On l'écoute.
En fait, le vrai problème qu'on a, c'est qu'on ne sait même pas ce que c'est que la fusion froide ou les LENR. Jusqu'où ça va, quoi ? Est-ce que c'est juste l'effet style Ponce et Fleischmann ? Ou alors ça va plus loin, la fractofusion, d'autres réactions qui se sont produites dans la nature, les transmutations biologiques, etc. On a réalisé, avec beaucoup de retard, que le phénomène était beaucoup plus large que ce qu'on croyait. Alors, c'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas de théorie encore qui explique l'ensemble, la totalité de ces phénomènes. On a des petits bouts. On peut expliquer peut-être comment l'énergie peut être transmise au réseau. Ça, c'est Einstein. Il y en a d'autres qui utilisent d'autres techniques pour expliquer comment les atomes peuvent fusionner, parce que les électrons tournent très près, comme Mills ou comme d'autres.
On a très souvent commencé avec des phénomènes physiques pour arriver éventuellement à une théorie.
Oui, 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 c'est tout à fait normal. Hein. Simplement, ça fait 26 ans que ça dure et que le système est très complexe. En réalité, on a mis le doigt dans un truc gigantesque. On croyait que c'était une petite chose, la fusion D plus D. C'est peut-être pas D plus D d'ailleurs, c'est peut-être D plus Li, c'est peut-être D plus autre chose, ou c'est peut-être H plus autre chose. Il y a des transmutations, il y a un peu de rayonnement, mais très très peu, donc il faut l'expliquer. Quels sont les mécanismes? Est-ce que ça marche que dans les solides? Est-ce qu'on a besoin d'une structure cristalline ou pas? Bon, il y a tellement de questions qui sont ouvertes, et vraiment, on est perdu là-dedans. Hein.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelques scientifiques qui émergent, notamment Andrea Rossi, qui affirme avoir mis au point un petit réacteur?
Alors, au niveau expérimental, il y a Andrea Rossi qui, à mon avis, est le plus avancé de tous. Hein. Il a un réacteur qui tourne depuis 6 mois maintenant, avec 1 mégawatt. Donc, c'est un gros réacteur. Il a des problèmes de stabilité. C'est tout à fait normal quand on a une technologie nouvelle qu'on ait des problèmes. Hein. Donc, il passe ses jours et ses nuits. Et en permanence, il surveille le réacteur. Hein. Ils sont là 24 heures sur 24. On n'a pas assez d'informations directement là-dessus, sur le détail de sa manip. Donc, c'est difficile de tirer des conclusions. Mais il y a des groupes en dehors de Rossi qui ont refait des expériences style Rossi, et pas dans la durée comme fait Rossi, c'est-à-dire sur des jours et des jours, mais sur quelques heures, où ils disent qu'ils ont obtenu des rendements très élevés. Parkhomov, russe, a fait des expériences de ce type. Il y a d'autres personnes qui ont reproduit ces expériences, des Chinois qui ont réussi à le reproduire. Il y a plusieurs équipes qui sont dessus, donc moi-même d'ailleurs. Mais jusqu'à présent, malgré toutes mes tentatives, j'ai jamais réussi à obtenir ce qu'eux, ils ont obtenu. Je veux dire, j'ai pas eu des rendements de facteur 3. J'ai eu peut-être 5%, des petites quantités, et encore, je ne peux pas être complètement sûr sur des petites quantités comme ça, si c'est réel ou si c'est une erreur de mesure.
En tout cas, au moins, on n'est plus aux années 1990, quand la communauté scientifique niait l'existence de ce qu'on appelait la fusion froide.
Alors, on n'est plus tout à fait là-dedans, mais on n'est pas non plus dans le cas où ça a été accepté par la communauté scientifique. Il y a quelques universités qui travaillent sérieusement dessus. Ben, aux États-Unis, c'est celle du Missouri, et maintenant celle du Texas aussi. Ça, c'est relativement nouveau. Au Japon, il y a tout un programme qui est mis en place à l'université de Sendai. Ça bouge un tout petit peu au niveau universitaire, mais très très peu quand même. Là, il y a toujours une opposition très forte. Par contre, ce qui nous a surpris le plus, c'est l'intérêt des industriels. C'est-à-dire les industriels de l'énergie, ou on l'a vu avec la NASA déjà, mais on le voit maintenant avec Airbus ou avec une société comme Nissan aussi au niveau de l'automobile, qui commencent à s'intéresser de près au sujet quand même. Donc ça veut dire que les industriels, eux, ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. Hein.
Quand vous évoquez la NASA, l'agence spatiale américaine, c'est quand même le gouvernement américain, c'est quand même un programme très sérieux. Et des scientifiques de la NASA depuis plusieurs années étudie le phénomène et y croit dur comme du fer.
Ah ben, dès 1989, ils ont publié un rapport dans lequel ils montraient qu'il y avait des effets. C'est dès le début, ils ont trouvé des résultats. Hein. Mais vous savez, le gouvernement américain, comme toutes les institutions, aussi bien la NASA qu'Airbus, etc., ils sont un peu schizophrènes. Ils ont des gens qui y croient et puis d'autres qui n'y croient pas. Donc c'est pas aussi monolithique qu'on pourrait le croire. Hein. Airbus, il y a quelques personnes qui sont intéressées, mais la plupart regardent ça de loin hein, quand même. Hein. Voilà, je veux dire que ça bouge un peu au niveau scientifique, mais à titre individuel, non pas au titre de l'organisation.
Comment vous voyez l'avenir, vous, pour la fusion froide? Enfin, les réactions nucléaires à basse énergie.
Écoutez, si ce que dit Rossi et ce que Parkhomov et d'autres disent est réel, c'est, ça peut être reproduit encore par d'autres personnes, assez rapidement, ça va changer la face du monde. Ça va être très très rapide. Parce que la nouvelle, ils ne pourront pas la cacher très longtemps. Je veux dire, on voit bien que la presse bloque complètement l'information. Le fait que Airbus organise une conférence sur le sujet, la presse ne parle même pas, je veux dire, ça devrait les intéresser quand même. Donc le sujet est très bloqué par la presse. Mais si Rossi et d'autres comme Parkhomov arrive à sortir rapidement des résultats très importants, reproductibles par d'autres personnes, que ce soit facile à faire, je pense que ça va aller très vite. C'est une question de quelques années et la boule de neige va se développer très vite. Oui. Ça ne marche pas, alors là, ça va traîner encore une dizaine d'années ou plus, hein, je veux dire.
Mais justement, ce qu'on avait beaucoup reproché à la fusion froide et à Pons et Fleischmann, les deux scientifiques qui ont alerté la communauté mondiale sur le phénomène, c'est qu'on disait on ne peut pas reproduire le phénomène. Mais depuis, les choses ont changé quand même.
Ah oui, le phénomène a été reproduit des dizaines, des centaines de fois. Le phénomène de base de Pons et Fleischmann, ça a été reproduit. Mais le problème du phénomène de Pons et Fleischmann, c'est que c'est quelques watts, c'est des dizaines de watts au mieux. Il n'y a pas d'application industrielle encore avec ça. Avec ce qu'a fait Pons et Fleischmann, c'est de la science. Ce n'est pas du tout industriel. Or, pour secouer un peu le cocotier, il nous faut des applications industrielles maintenant. On a vu que la science ne suffit pas. Les gens ne lisent pas les articles. Il y a une opposition très forte qui fait que les gens ne sont même pas au courant que ça existe. Hein. Ils ne savent même pas. Les gens croient que ça a disparu. Ils ne regardent pas. Alors qu'il y a des centaines d'articles qui sont disponibles gratuitement sur Internet, hein, qu'on peut aller télécharger et lire. Donc on ne peut pas se tromper quand même à ce moment. Une personne, deux personnes, dix personnes, mais avec des technologies différentes, des méthodologies différentes, trouver des résultats similaires, il y a un problème là quand même. Hein. Donc le fait qu'on ait utilisé des technologies différentes pour faire des expériences qui donnent des résultats semblables, ça prouve bien que le système est réel. On a vu des transmutations, on a vu de la chaleur, on a vu de l'hélium. Bon, on a vu un tout petit peu de rayonnement, mais vraiment très 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 peu. Donc ça n'explique pas du tout la réaction. Mais on l'a observé. Scientifiquement, à mon avis, il n'y a aucun doute que c'est prouvé. Simplement, le problème, c'est que les scientifiques ne regardent pas. Et le grand public ne peut pas être informé parce qu'il y a un blocage complet qui est fait au niveau des scientifiques, au niveau de la presse. On a un site internet lenr.org où il y a plusieurs milliers d'articles dessus. Et il y a des téléchargements de tous les pays du monde, de toutes les organisations que vous pouvez imaginer. Donc les gens suivent le sujet, mais ça reste encore souterrain. Ça ne sort pas encore. Donc il nous faut une grosse découverte, quelque chose d'important, comme Rossi par exemple. Si Rossi nous dit voilà, j'ai un client qui a un appareil qui fonctionne chez lui, ben là ça va changer un peu la face du monde quand même.
Et c'est justement ce à quoi il travaille.
C'est ce à quoi il travaille justement, mais il ne donne pas des détails sur son fonctionnement. C'est ça un peu la difficulté.
Le physicien français Jean-Paul Biberian, il était joint en France. Ici Washington, Camille Grosdidier pour cette édition de Carrefour Science et Santé. Après le Maroc qui a récemment autorisé l'avortement dans de nouveaux cas, notamment de viols ou de graves malformations et maladies fœtales, c'est au tour du Malawi de se pencher sur la question de l'IVG. Anne Robertson.
La commission juridique du Malawi étudie un nouveau projet de loi qui assouplirait la réglementation de l'IVG. Les statistiques dont dispose le gouvernement indiquent qu'à travers le pays, 70 000 femmes ont recours à l'avortement chaque année et que 17% d'entre elles meurent durant cette procédure jusqu'à présent interdite, car l'IVG reste passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 14 ans, sauf dans les cas où la grossesse menace la vie de la mère. Ce qui n'empêche pas les Malawiennes de se faire avorter clandestinement. Une pratique qui coûte très cher au gouvernement, qui dépense environ 1 million de dollars par an pour traiter les séquelles de ces IVG illégales. C'est ce qui a poussé le gouvernement à soumettre un projet de loi, l'espoir étant de protéger la santé des femmes en réduisant les dépenses de santé publique. Une juge de la Haute Cour, Esme Chambo, préside la commission chargée de la révision de la loi sur l'avortement.
We are extending the grounds on which abortion can be procured.
Nous allons assouplir les conditions dans lesquelles un avortement peut être autorisé. Si une femme est enceinte, mais que le médecin dit que le bébé est atteint de malformations pouvant compromettre sa survie, alors une femme pourra décider si elle lui donnera naissance ou mettra fin à sa grossesse. Le nouveau projet de loi prévoit également d'autoriser les IVG chez les femmes victimes de viols, d'inceste ou d'autres violences. Ce n'est pas suffisant, estime pour sa part Crispin Sibande, coordonnateur national de la Coalition pour la prévention des avortements risqués.
Des statistiques du ministère de la Santé montrent que 80% des femmes et des filles qui ont recours à un IVG font partie d'un couple stable ou sont mariées. Si une personne est mariée, peut-elle demander un avortement au motif qu'elle a été violée? Si une personne est en couple, mais a des rapports sexuels avec d'autres et se retrouve enceinte, cela veut dire que dans ces deux cas, l'IVG est hors de question, fait-il remarquer.
Par contre, le père Maurice Muntali est contre l'IVG.
Au plan spirituel, un avortement reste interdit parce que c'est un péché. Le viol, l'inceste, peu importe. Quand la conception a eu lieu, tout s'arrête. Une erreur a été commise par la personne qui commettait le viol, mais vous ne pouvez pas punir le bébé qui est dans l'utérus, affirme le révérend Muntali.
Du côté des Malawiens, les avis sont partagés. Esnat Lungu, 24 ans, est pour la nouvelle loi. « Si on me violait et que je me retrouvais enceinte, je ne voudrais certainement pas garder l'enfant », dit-elle. Mais Wyford Banda n'est pas si sûr et fait valoir qu'on tue un organisme vivant. Le nouveau projet de loi doit être débattu par le Parlement du Malawi.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, toujours concernant l'IVG. Eh bien, chaque année dans le monde, 22 millions d'avortements sont réalisés hors du cadre hospitalier. Au total, 22 000 femmes perdent la vie suite à un avortement clandestin en lien direct avec le manque d'hygiène. C'est ce qu'affirme une étude de l'Institut Guttmacher publiée dans la revue An International Journal of Obstetrics and Gynecology. D'autres précisions avec Michel Joseph.
Des chercheurs de l'Institut Guttmacher aux États-Unis ont évalué l'impact de ces IVG et des séquelles qu'ils laissent. Ils ont découvert que dans les 26 pays en voie de développement observés pour l'étude, 8 millions de femmes âgées de 15 à 44 ans souffrent de complications liées à une interruption volontaire de grossesse hors cadre hospitalier, précise le docteur Sushila Singh, qui a dirigé l'étude. Au total, seulement 5 de ces 8 millions de femmes reçoivent des soins nécessaires. Les Pakistanaises sont les plus impactées. Plus de 14 femmes sur 1000 ayant subi un avortement doivent être prises en charge pour des séquelles, contre seulement 2 femmes environ sur 1000 au Brésil. Cela signifie qu'une femme s'est confiée soit à quelqu'un qui n'était pas suffisamment formé pour rendre ce service, soit qui n'avait pas les aptitudes nécessaires, ou elle s'est rendue dans un lieu non hygiénique et donc il y avait un risque de développer une infection, même si la personne était qualifiée, explique le docteur Singh. Qui pratique les IVG? Selon le médecin, il peut s'agir d'une sage-femme, d'une accoucheuse ou encore d'une infirmière ou d'un médecin. Mais il se peut qu'ils ne soient pas suffisamment formés ou qu'ils opèrent dans un cadre peu hygiénique. Le nouveau rapport dresse un tableau sombre des avortements illicites dont le docteur Singh évoque des séquelles.
Extreme hemorrhage, a lot of bleeding.
Des hémorragies extrêmes, des pertes de sang, la perforation de l'utérus ou une infection qui entraîne une forte fièvre, la septicémie même. Des lacérations selon les objets introduits dans le vagin. Les catégories vont de complications simples aux plus graves, dont celles qui menacent la santé de la mère, explique le docteur Singh. En tout, les autorités dépensent chaque année au moins 232 millions de dollars pour traiter les victimes d'avortements non autorisés. Mais selon l'étude de l'Institut Guttmacher, le vrai coût se chiffre probablement à 560 millions de dollars. C'est tout simplement qu'un nombre incalculable de femmes ne sont jamais soignées et vivent avec les séquelles de leur traumatisme, constate l'étude. Pour le docteur Singh, la solution serait de prévenir ces IVG illicites en fournissant aux femmes de meilleurs moyens de contraception et en les suivant en cas de problème. Pas de grossesse non voulue, pas d'IVG illicite, explique-t-elle en substance. Et mieux vaut confronter le problème en dépit du stigmatisme associé aux IVG. Car si 22 millions d'avortements sont pratiqués chaque année à travers le monde, c'est que les femmes continueront de chercher à se libérer de grossesses non voulues.
étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA
Afrique. Qu'il s'agisse de la dengue, de la fièvre jaune ou encore du paludisme, eh bien à travers le monde, 1 million de personnes meurent chaque année de maladies causées par une simple piqûre de moustique. Et de nouveaux travaux publiés dans la revue Current Biology révèlent à quel point ces moustiques sont efficaces lorsqu'il s'agit de cibler leur proie. Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de La Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier, qui vous remercie de l'avoir suivi.
Bienvenue à bord.